C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de C'est le temps qui fait la panique et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine qui alerte sur l'inflation des paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Propos haineux, discours discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec handicap, le thème de ce magazine s'intéresse à la façon dont les termes, les expressions ou parfois l'attitude que nous avons envers des personnes qui présente une certaine déficience sur le plan physique, mental ou même social. En effet, des personnes en situation de handicap sont souvent exposées à plusieurs formes de discrimination si l'état physique, mental ou même les conditions sociales leur sont parfois défavorables. La façon dont elles sont traitées, regardées ou considérées et surtout les discours tenus à leur égard sont souvent discriminatoires. Des expressions pour les désigner ou pour parler d'elles, très souvent basées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont insultants parfois, dénigrants, catégorisants ou même discriminatoires. Les personnes en situation de handicap sont dans la plupart des cas considérées comme inférieures et sont privées de certains droits du fait de leurs conditions. Bref, ces paroles sont dangereuses. Ses propos sont haineux et ont des conséquences tant sur le plan psychologique que sur le plan social. Et
voilà, pour en parler, nous recevons M. Pascal Tambuka, président des étudiants de l'Université de Bukavu. Bonjour M. Pascal Tambuka.
Bonjour madame la journaliste. Mais comme vous avez dit, je suis Pascal Tambuka, je suis le représentant des étudiants de l'Université officiel de Bukavu.
Oui, je signale aussi que vous êtes vous-même une personne non-voyante. Avec vous, M. Pascal Tambuka, nous recevons également M. José Zoubi, président de la Dynamique nationale pour la promotion et le développement des handicapés en RD et Congo. Bonjour, M. José Zoubi.
Bonjour, madame. Bonjour, Radio Capi. Bonjour à vos millions d'auditeurs. Je suis effectivement maître José Zoubi. Je suis avocat à la Cour et puis je suis, comme vous l'avez dit, président de la Dynamique pour la promotion et le droit des personnes avec handicap.
Merci, maître José Zoubi. Avant d'entrer dans le vif de notre échange, nous vous invitons à suivre le premier extrait de notre feuilleton.
Oui. Oublie un peu ton téléphone et concentre-toi. Nous devons bien préparer cette dissertation.
Justement, nous devons bosser dur parce que ce travail nous permettra de participer à la compétition avec d'autres facultés.
Et arrêtez de perdre votre temps inutilement.
Janine,
c'est sûr que désormais notre faculté sera la dernière de toute l'université.
Ah bon? Et pourquoi? Oui. Pourquoi tu dis ça?
Attends. Que pouvons-nous attendre d'autre à part l'humiliation? Avec cet invalide qui vient d'être nommé doyen de notre faculté.
Voilà.
Doyen du Gounet, invalide.
Voilà, c'est sûr que notre faculté va boiter comme le nouveau doyen.
Mais attendez.
C'est sûr, vraiment.
Mais les gars, qu'est-ce que l'handicap physique de ce nouveau doyen a à voir avec sa capacité de gérer la faculté?
Amen. Sois quand même sérieux, hein. Tu calabantes. Comment ce type a osé se présenter au campus, hein? Sachant qu'il est dans cet état.
Non.
Non.
Que faut-il attendre de cet invalide qui vient d'être nommé doyen de notre faculté? Monsieur Pascal Tambouka, n'est-ce pas que cette interrogation est à l'image des idées, des propos ou des expressions que beaucoup tiennent à l'égard des personnes vivant avec handicap? Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer le fait que des gens emploient parfois un langage qui est, disons-le, discriminatoire envers les personnes en situation de handicap?
Oui, merci madame la journaliste. Comme vous l'avez d'ailleurs suivi avec moi dans ce petit sketch, nous avons compris que c'est une réalité en tout cas que disent les personnes en situation d'handicap, surtout lorsqu'il s'agit d'occuper les postes de décision. Je vais par exemple parler de moi lorsqu'il s'agit d'occuper une poste de représentation des étudiants. Tout le monde pourrait dire non, comment les étudiants se seront représentés par un non-voyant, est-ce qu'ils pourraient connaître les problèmes des étudiants et tout le reste. Cela arrive souvent par manque d'informations, parce que le public n'est pas informé, et il y a moins d'informations, et du coup, on se base sur ce qu'on a entendu. Par exemple, pour un non-voyant, nombreux ne savent pas est-ce qu'un non-voyant peut étudier, peut faire ceci. Alors, on se base sur tout simplement les jugements des valeurs.
Donc, il y a donc l'ignorance hein, qui, selon vous, peut expliquer ce type de comportement, ce genre de propos que les gens tiennent envers les personnes vivant avec handicap. Mais vous, personnellement, comme vous avez dit que vous avez déjà été confronté à cela, comment vous réagissez dans ce contexte?
Faut d'abord être fort aussi mentalement, parce que lorsqu'on vous lance des propos haineux, des propos discriminatoires, au moment où on s'attend déjà à ça, ça va pas vous affecter. Déjà, j'étais préparé à ça en me lançant dans cette aventure. Je dois me préparer à ça. Je dois m'attendre. L'adversaire doit utiliser un point qu'il croit être le talon d'Achille pour le ridiculiser. Alors, de ma part, je dois déjà être fort mentalement et savoir que cela ne pourrait même pas affecter mon mental. C'est comme, par exemple, lorsqu'on appelle un albinos, comme nous l'entendons souvent, Dundu et tout le reste. C'est lui qui trouve ça comme une injure, bon, on va mal le considérer, mais ce qui trouve bon, c'est ma situation, peu importe, je le suis, malgré qu'on me l'a plutôt rappelé, mais je le suis.
Merci beaucoup, monsieur Pascal Ntambouka. On va prendre maître José Zoubi. Maître, selon vous, d'où peuvent provenir ces types de langages, on l'a dit, qui sont parfois dénigrants envers les personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est quelque chose que nous avons dans nos langues locales du fait de nos cultures, ou bien cela dépend des contextes sociaux dans lesquels on peut se retrouver, où les personnes vivant avec handicap ont plus ou moins des considérations, maître José Zoubi?
Merci beaucoup pour la question. Moi, je crois que tous ces langages rabaissants, dénigrants, proviennent d'abord de notre culture. C'est que en l'homme, il y a déjà cette capacité, c'est que l'homme ne veut pas voir ce qui est difformé. C'est-à-dire que l'homme n'aime pas voir quelque chose qui va lui rappeler son état de faiblesse. On aime toujours chercher à voir ce qui est ennoblissant, ce qui vous exalte. Mais quand on voit, par exemple, quelqu'un marcher avec une déformation, ça vous rappelle qu'un jour, peut-être, vous risquez de finir comme cette personne-là. Et généralement, le premier réflexe, c'est les repousser. Il faut dire aussi que dans notre culture, par exemple, nous, du côté de l'Ouest, ici, il y a aussi ce que nos parents, peut-être, n'ont pas vraiment bien réussi à inculquer dans leurs enfants, l'éducation. Je me rappelle, par exemple, que nous qui marchons avec les béquilles, ou par exemple, si vous marchez avec une déformation, par exemple, une partie de votre corps, généralement, c'est que les mamans font quand ils ont un enfant, un petit enfant qui pleure dans les quartiers ou dans ses bras. Pour calmer l'enfant, quand vous, personne avec un handicap, vous passez, qu'est-ce qu'on dit? Ah, calme-toi, calme-toi, sinon tu vois cette personne-là, elle va t'arrêter. Oh, cette personne-là, c'est un sorcier, il risque de t'en foutre. Mm-hmm. Donc tu vois déjà, quand l'enfant grandit, dans sa tête, il y a déjà cette pensée-là qui dit que une personne qui ne marche pas comme ses parents, une personne qui a peut-être un dos déformé ou une tête ici ou un bras déformé, c'est une personne qui sort de l'ordinaire, c'est forcément quelqu'un qui doit être soit lanceur de mauvais sorts, soit un sorcier, soit un revenant, ou en tout cas quelqu'un qui ne doit pas être accepté dans la société. Si bien que quand l'enfant grandit, il risque de répéter ça également dans son environnement, dans son école, là où il grandit. Et puis voilà, on repousse cette catégorie de personnes. On leur dit, ben vous ne pouvez pas jouer avec nous, c'est ce que nous avons connu nous à l'école. Et comme Pascal l'a dit tout à l'heure, là, il faut être très fort tout simplement pour s'en sortir. Mais pour compléter un peu ce que lui l'a dit tout à l'heure, quand vous êtes victime de ce genre de paroles, moi ce que je faisais généralement et ce que je conseille à mes amis, que ce soit dans les milieux scolaires, dans les milieux académiques ou quoi, il faut prendre ça tout simplement avec humour. Hein, moi, par exemple, il arrivait parfois que les amis volent mes béquilles, hein, et qu'ils aillent les cacher quelque part. Et puis, bon, voilà, ils cherchent tout simplement à te diminuer, à t'énerver, à te déconcentrer pour que tu ne suives pas très bien les cours. Et c'est qu'il faut tout simplement prendre ça avec humour et puis tu ris. Et toi aussi, tu crées une petite blague comme ça et puis tout le monde va commencer à rire et puis ça va passer, quoi. Mais s'ils savent déjà que dès qu'ils te font un petit geste comme ça et que tu te mets sur ton tampon sur tes chevaux, là, c'est fini, tu perds la boussole et puis tu ne peux plus être concentré, tu ne vas plus étudier. Demain, tu risques de ne plus venir à l'auditoire parce que tu sauras que tout le monde a ses regards fixés sur toi. C'est là qu'on va tout chaque fois te provoquer, c'est ton point sensible. Et puis voilà, conséquence, c'est qu'il y en a beaucoup qui abandonnent les études, qui abandonnent les milieux comme ça sportifs ou quoi, et qui vont se cacher en pleurant peut-être.
Oui, prendre voilà. Avec l'humour pour justement montrer que c'est quelque chose de normal, de naturel, et que ce n'est pas forcément discriminatoire, maître José Zoubi. Merci. On va prendre la deuxième partie de notre magazine avec cet extrait de notre feuilleton qui montre que parfois, ces langages peuvent avoir des conséquences pas toujours heureuses. Suivons.
Je ne me calme pas. Vous n'avez pas envie de tenir des propos dégradants envers quelqu'un, hein? Seulement parce qu'il est né en étant différent de vous.
Alors, Mérite mieux qu'un pauvre escroquier qui se déplace sur une chaise roulante.
Contrôle ses langages. Contrôle ça.
Mais franchement. Effectivement. Celui-là n'est qu'une personne de seconde zone. Il ne mérite pas une telle fonction.
Et d'ailleurs, je suis déçu de toi. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que à la maison, que ces gens qui naissent avec des défauts physiques ont été maudits et qu'ils portent malheur.
C'est plutôt vous les extropiés linguistiques, c'est vous.
Je suis d'accord avec toi, Mbouta. Nico, d'accord, Naoué. C'est vous qui avez des langages handicapés qui font proférer ce genre de paroles irrespectueuses.
Qu'est-ce que tu as fait, toi?
Oui, comment oses-tu nous traiter d'escroquiers en nous comparant à cet invalide?
Eh bien, sachez que vous êtes même plus extropié que le doyen.
C'est
parce que votre handicap est de ne pas pouvoir traiter tout le monde d'une manière égale.
Non, tu m'entends.
Et c'est ça le plus dangereux du
doyen.
Regardez-moi ça.
C'est un sentiment de révolte que ce langage dégradant a suscité auprès de certains étudiants. Savez-vous qu'avec ce langage, vous tuez doublement les victimes, s'insurge l'un des étudiants. Monsieur Pascal Tambouka, maître Zoubi disait tout à l'heure que parfois, il faut prendre ça avec humour. Est-ce que pour vous, ce même sentiment de révolte, lorsqu'on est la cible des propos discriminants, des propos insultants du fait de son handicap, et surtout, jusqu'où cela peut aller, selon vous, monsieur Pascal Tambouka?
Ces propos, très souvent d'ailleurs, vous allez les remarquer, ça peut affecter même, comme je l'ai dit, le mental de la personne. Mais nous remarquons que dans nos communautés, ça dépend aussi dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, parce que c'est important de contacter d'autres environnements que vous allez trouver. Bon, ceux qui donnent des propos discriminatoires, et là, vous vous rappelez que vous êtes une personne en situation d'handicap. Mais là où il y a ceux qui vous acceptent aussi facilement comme vous êtes, vous n'avez pas remarqué cela. C'est comme celui qui dirait la danse d'un malade mental fait rire à celui qui n'est pas de sa famille. Ce genre de discours, comme l'a dit d'ailleurs le maître, peut amener à adressez d'abord l'estime en vous-même et c'est sur base de manque d'informations que ça peut vous amener à perdre cette estime et vous allez peut-être commencer même à baisser vos performances. Autant lorsque vous vous trouvez avec d'autres qui ont traversé les mêmes situations, qui ont parvenu par les surmonter, c'est par là que vous trouvez que vous pouvez aussi être utile comme d'autres ne pouvaient le croire.
Ah oui, mais Maître Zoubi, alors pour vous, est-ce uniquement le fait que ce langage constitue une violation des droits humains qui fait qu'il doit être considéré comme un langage dangereux, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs, conséquences qui font dire que, attention, lorsqu'on s'exprime de la sorte envers les personnes en situation de handicap, on se retrouve à proférer des paroles dangereuses, des discours de haine?
Outre le fait que c'est une violation de droit de reconnaître la personne humaine, je me dis que ce sont des paroles très dangereuses qu'il faut absolument bannir. Tout à l'heure, je vous ai dit que moi, je prenais ça souvent avec humour, mais tout dépendait également du milieu. Dans les milieux de mes amis, bon, j'essayais tout simplement de me provoquer, ou par exemple, parce que j'étais souvent intelligent et que j'ai réussi mieux pour essayer un peu me décourager, ils m'attaquaient de cette façon-là, et puis voilà. Moi, je prenais ça avec humour parce qu'ils savaient qu'après tout, ça passerait. Mais il y a des endroits où il faut parfois hausser le ton. Je n'accepterais vraiment pas qu'on me dénigre, par exemple, si je dois aller postuler quelque part et que quelqu'un essaie de rejeter mon dossier parce que je suis personne avec handicap. Non, parce qu'il y a d'autres personnes, vous devez les recadrer d'abord pour les faire comprendre qu'ils sont ignorantes de ce que sont des personnes avec handicap et que ces personnes-là ont besoin d'être éduquées. C'est comme j'ai suivi ça dans la scène tout à l'heure, la fille qui disait aux autres que c'est vous qui êtes plus handicapé que notre responsable des écoles.
Les estropiés linguistiques.
Oui, les estropiés linguistiques. Une fois dans une école, j'avais étudié lors d'une proclamation des points, j'étais premier de ma classe et il y a un parent qui a crié au fond de la salle là-bas disant « Ah, mais il dit à Amir Dada, où est-ce qu'il est ? Qu'il vient nous prendre ces handicapés ?» Ah, il les jetait à la mer. Il menace beaucoup nos enfants en étant toujours premier et nos enfants ne résistent pas. Vous comprenez, ça c'est un langage très dangereux. Déjà, quand on développe ce genre de langage-là, c'est très dangereux. Vous avez entendu même que dans un autre pays de l'Afrique de l'Est, où on faisait la chasse à nos amis albinos parce qu'on croyait que leur chevet avait des pouvoirs de guérir certaines maladies. Il y en a qui pensaient qu'il y a certaines parties de leur corps qui pouvaient peut-être renforcer certaines capacités, même aphrodisiaques ou quoi. Donc ça, c'est dangereux. Ça peut conduire à des dérives ou à des dérapages qui sont tout à fait à condamner. Donc, tout dépend du milieu. Mais je dis que c'est une violation grave des droits de l'homme. Et quand on les emploie à certains milieux, il faut savoir les condamner. J'ai une école que j'encadre dans l'ouest de notre pays. Mais dans les milieux de petits-enfants, comme à l'école primaire, je vois ça souvent à la rentrée scolaire. Les enfants qui arrivent pour la première fois, et quand ils voient leurs promoteurs d'école marcher différemment à leurs parents, ils sont un peu étonnés et parfois ils posent la question. À ces enfants-là, moi, je suis à l'aise de leur parler pourquoi je suis personne avec handicap. Et j'insiste souvent sur l'intérêt de prendre la vaccination. Vous comprenez? Et je conseille également les enfants de mon école, par exemple, d'éviter certains jeux dangereux qui peuvent conduire à attraper l'handicap sur soi. Dans certains milieux, donc, je dois me comporter comme un pédagogue parce que c'est une occasion pour moi de conseiller les enfants pour qu'ils ne deviennent pas comme moi. Mais devant certains adultes qui manifestent une mauvaise foi, il faut parfois hausser les tons et puis voilà ce que ça fait. Donc, c'est un langage tout à fait dangereux. Il faut le bannir. Il faut condamner par tous les moyens pour que ça se répète pas. Il faut pas que ça se développe. Mais il y a des endroits, par exemple, bon, il faut peut-être tenir des conférences comme nous le faisons maintenant pour conseiller les gens d'abord pour ne pas devenir personne avec handicap. Mais les handicaps, que vous le vouliez ou pas, un jour ou l'autre, ça peut vous attraper aussi. Hein. Donc, vous voyez bien quels sont des langages qu'il faut condamner et avec la dernière énergie. Et tout le monde doit se mobiliser en commençant par les parents d'abord dans leur famille qui doivent dire à leurs enfants que quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas comme vous, collègue de classe qui n'est pas comme vous, qui est différent de votre papa, il faut l'accepter, il faut l'aider dans la mesure du possible, mais ne pas tomber dans l'apitoiement. Parce que les personnes avec handicap n'ont pas besoin non plus qu'on puisse leur témoigner de la pitié. Elles n'en ont pas besoin. Elles ont besoin plutôt du respect et de la considération parce qu'ils sont des personnes à part entière.
Merci, Maître Zoubi, donc rire de ces propos dénigrants ou hausser le ton. La réaction dépend du contexte, du milieu, hein, vous venez de le dire. Monsieur Pascal Tambouka, vous pensez également la même chose?
Bien évidemment, j'allais d'ailleurs dire la même chose. J'ai vécu une situation récemment dans mes tâches de représentant d'étudiants. Il y a des étudiants qui ont été incarcérés. J'arrive au bureau du commissaire, je l'explique le cas des étudiants, comment ils ont été incarcérés et tout le reste. Mais ils me répondent directement méchamment et dire même vous, Pascal, si vous êtes là, c'est pas par votre propre gré. Il y a quelqu'un qui vous a amené. Donc c'était déjà pour que je ne puisse plus réagir et que je laisse l'affaire. En pensant qu'en touchant cela, ça va m'affaiblir, mais ça m'a donné alors la force de montrer à Blanc en position qu'il n'est pas vraiment une bonne personne. Et si même des institutions de défense des droits de l'homme se mettaient, il serait même condamné pour cela. Moi, je pense que nous devons renforcer ce genre d'activités comme ce genre d'émission à Radio Okapi, renforcer les sensibilisations dans nos différents milieux afin de bannir en fait les différents propos haineux parce qu'il y a des familles encore qui cachent ce genre de personnes. Alors si les sensibilisations se multipliaient un peu partout, je crois que ça serait vraiment une très bonne chose pour l'avancement de nos différentes communautés.
Merci beaucoup, monsieur Pascal Ntambuka. Sensibiliser, sensibiliser et sensibiliser contre ce langage dangereux, cette violation flagrante des droits humains, violation qui peut conduire à des dérapages, à des situations de dérive, comme disait tout à l'heure maître José Zoubi. On va poursuivre avec le troisième extrait de notre feuilleton où il y a une certaine prise de conscience par rapport aux conséquences des propos dangereux qu'on peut tenir à l'égard des personnes en situation de handicap. Suivons.
Vous d'abord.
Mais non, mais oui.
Bon, arrêtons d'abord les disputes, hein, et prenons le temps de réfléchir comme des intellectuels.
Comment voulez-vous qu'on puisse réfléchir comme des intellectuels au moment où on ne peut pas dire ce qu'on pense?
Qu'est-ce que tu penses là? Est-ce que tu trouves que ça a de sens?
Mais c'est ton point de vue.
Non, attends d'abord. Oui, hein. Oh, il y a la Waoumpe. Y a-t-il des défauts liés à la capacité de gérer la faculté quand vous êtes sur une chaise roulante?
Dis-moi. Ah, toi aussi, mon ami, hein. On ose vraiment que Banza pas t'a dit vous quoi l'oliseur.
Est-ce que on est sûr qu'il peut avoir la réponse à cette question? Hein?
Je m'en doute fort. On a tous vu les innovations que le nouveau doyen a pu introduire dans la faculté depuis qu'il est là.
Absolument.
Mais oui,
absolument. Voilà pourquoi je suis vraiment déçue. En tout cas, je suis déçue de leur entendre parler du nouveau doyen de cette façon.
Ah, tu as pas taka doyen mon yé qu'on a visu à Mali, mon yé qu'on a maoni a bien ça oui. Ça au moins c'est une évidence.
Oui. Et rappelez-vous. Personne ne mérite d'être blâmé ou discriminé à cause de la façon dont il est.
Voilà. Tout le monde devrait avoir la chance d'être traité avec respect. Ton poche chimie à qui la moutou, hein? Votre langage de discrimination envers les personnes vivant avec handicap encourage l'injustice envers ces personnes.
Oui, c'est de l'injustice.
Les gars, vous avez carrément raison.
Ah, ouais. Voilà.
Non,
ils ont vraiment raison. En fait, depuis que je suis tout petit, les gens dans mon entourage utilisaient toujours ce genre de langage envers les handicapés. Malheureusement, j'ai fait l'erreur de copier ces mêmes langages inconsciemment sans vraiment mesurer la gravité. Du fond du cœur,
Moi aussi. Ce n'est que maintenant que je réalise à quel point la société m'a influencé à utiliser et à justifier ces mauvais langages. Je les regrette sincèrement.
Vous voyez, les regrets viennent toujours après.
Ouais. Mampanginanga, hein? J'espère que vous comprenez maintenant que ce langage est vraiment dangereux.
Très dangereux. Et que nous devons
l'éviter à tout prix pour arriver à une société où tout le monde s'accepte et se respecte.
Et votre langage de discrimination envers les personnes vivant avec un handicap encourage l'injustice envers ces personnes. Nous l'avons suivi dans notre sketch. Alors, monsieur Pascal Ntambuka, le langage discriminatoire est un reflet de l'injustice dont sont parfois victimes les personnes vivant avec handicap. Comment, justement, lutter contre cette injustice, réussir à changer cette rhétorique, promouvoir un discours en faveur de l'acceptation mutuelle et du respect de droits de tout un chacun, et quelle que soit à sa condition? Votre conclusion, M. Pascal Ntambuka.
Merci beaucoup, madame. Je veux dire, chacun doit s'approprier en tout cas cette liste pour un peu de combattre en tout cas ce genre de discrimination à l'égard de cette catégorie des personnes. Moi, personnellement, je veux dire, je suis chroniqueur dans une radio locale ici où je parle de la défense des droits des personnes vulnérables. En quelque sorte, il faudrait d'abord que nos autorités doivent s'impliquer dans la mise en place des infrastructures qui vont leur permettre d'être d'abord autonomes. Lorsqu'il y a déjà, par exemple, des infrastructures adaptées à leur situation, sont aussi placés à des postes de décision dans des institutions étatiques et tout le reste. Moi, je crois que au fur et à mesure, ça va amener à tout le monde de voir que ce sont des personnes comme tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et, par exemple, celle que je fais actuellement, et là, j'avais aussi appelé aux volontaires de m'appuyer dans ce projet d'apprentissage de l'outil informatique aux personnes non-voyantes. Ça facilite en tout cas toutes personnes de travailler comme tout le monde. Par exemple, on a parlé de l'exonération des frais académiques pour les personnes en situation de handicap. Ça serait mieux pour leur faciliter l'accessibilité aux études universitaires. Moi, je crois qu'on a vraiment des idées, mais c'est la mise en application qui pose toujours problème.
Merci beaucoup, Monsieur Pascal Ntambuka. Des idées sont là, mais la mise en application pose problème. Vous avez soulevé également le fait que la société ne met pas toujours à la disposition des personnes vivant avec handicap des conditions qui leur permettent de jouir totalement de leurs droits. On va, avant de prendre la conclusion de Maître José Zoubi, Maître, on a une question d'un auditeur à laquelle on souhaiterait que vous répondiez. Suivant.
Bonjour à Barre RDC. Je suis Grassé Moïsi depuis Kiwanja dans le Nord Kivu. Je voudrais juste savoir quelle est la valeur que notre pays donne aux personnes vivant avec handicap et quelles sont les mesures prises pour démontrer combien de fois ils prennent la valeur des personnes vivant avec handicap.
Merci beaucoup à notre auditeur depuis Kiwanja. Maître José Zoubi, pouvez-vous faire un commentaire là-dessus?
C'est avec plaisir que je réponds à Gracie de Kiwanja, au Nord Kivu. Tout à l'heure, vous m'avez entendu, quand nous faisons le plaidoyer, comment nous adressions aux autorités de ces pays. Je dois vous dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées qui ont été réalisées. Notamment la promulgation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Je suis heureux également de signaler que le premier ministre sortant, Sam Alukonde, venait de prendre une série de décrets encore. Il y a 4 grands décrets qui sont sortis pour encourager la visibilité de la personne avec handicap et l'amélioration de ses conditions de vue. Il y a notamment cet arrêté qui parle de la représentation de la personne vivant avec handicap dans les institutions, des facilités administratives, l'accessibilité et des aides qu'on doit accorder aux organisations des personnes avec handicap. Et tout cet arsenal juridique est là pour venir améliorer tant soit peu les conditions de la personne vivant avec handicap. Il y a aussi un fonds national d'accessibilité et à l'autonomisation de la personne vivant avec handicap qui va être créé. On va également créer un conseil national consultatif pour la défense des droits des personnes vivant avec handicap. Et depuis qu'on a créé un ministère en charge de la personne vivant avec handicap de notre pays, il faut dire quand même que il y a du côté arsenal juridique, nous sommes maintenant suffisamment outillés. Et nous, c'est un décret qui vient résoudre grandement les problèmes de chômage et de la mendicité qui gangrenaient les milieux de personnes vivant avec handicap. Comme l'a dit Pascal tout à l'heure, ce qui compte également, c'est l'applicabilité ou la mise en pratique de ces différentes lois. Voyons que cela va concourir grandement à l'amélioration de leurs conditions de vie.
Merci beaucoup.
Donc,
vous parlez donc des mesures prises par l'État pour justement permettre aux personnes vivant avec handicap de retrouver la place qui est la leur dans la société. Maître, comment finalement changer cette rhétorique, cette opinion générale que la société a à l'égard des personnes vivant avec un handicap, opinion qui est parfois dénigrant, discriminant? Maître, pour conclure.
Ouais, pour conclure, moi je dirais plutôt que avec cet arsenal juridique qui est maintenant mis en place dans notre pays, si par exemple dans un village, un enfant voit déjà que son administrateur de territoire, c'est une personne avec handicap, cet enfant-là qui voit que cette catégorie de personnes qui jadis étaient marginalisées devient de plus en plus considérée dans la société, cet enfant-là changera de regard. Hein. Je rappelle toujours aux gens que parfois beaucoup de gens ignorent qu'un des présidents qui a dirigé les États-Unis pendant la période la plus difficile de son histoire s'appelait Franklin Roosevelt, c'est une personne qui était sur une chaise roulante, une personne vivant avec handicap, mais c'est l'un des meilleurs présidents que les États-Unis aient connu. Donc, si l'État d'abord arrivait à promouvoir réellement la personne vivant avec handicap, à faire en sorte qu'elle soit représentée dans les institutions, dans les entreprises publiques, dans la diplomatie, si l'État fait faire en sorte que cette disposition de l'article 49 de la Constitution peut être traduite en réalité,
de plus en plus il y aura de la considération envers la personne avec handicap. Ça va motiver ces parents-là également à encourager ces enfants à étudier. Et eux-mêmes, les enfants aussi, vont bien commencer à étudier, sachant que maintenant, ils pourraient occuper des postes de responsabilité. Non pas parce qu'ils sont présents avec handicap, mais parce que d'abord, ils méritent d'occuper ces fonctions-là, parce qu'ils ont quelque chose, ils ont étudié et ils sont compétents.
Merci, voilà. Donc, Maître José Zoubi, pour votre conclusion. Donc, l'application de l'arsenal juridique mise en place pour promouvoir la personne avec handicap, elle va aider, hein, si cela est appliqué, donc cela va aider à changer l'image même de la personne avec handicap dans la société. Merci pour votre participation. Je rappelle que vous êtes président de la Dynamique nationale pour la promotion et le développement des handicapés en RD Congo. Nous disons également merci à Monsieur Pascal Tambouka, président des étudiants de l'université officielle de Bukavu, d'avoir accepté d'échanger avec nous autour des effets des propos discriminatoires tenus à l'égard des personnes en situation de handicap. C'est le temps qui fait la panique pour vous alerter sur les paroles dangereuses en RD Congo. Merci encore une fois à nos invités. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs et auditrices. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30, heure de Kinshasa, pour un nouveau numéro. Mais en attendant, retrouvez ce numéro en rediffusion samedi 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Kapi ou à tout moment sur radiokapi.net et à barirdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Kapi et Abari RDC. Encore une fois, merci. Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Kapi.